Bonjour, je suis Pierre.
Bonjour, je suis Juliana.
Et bienvenue à ce premier podcast en français pour SOT.net. Pour cette première émission, nous allons vous parler d'un sujet qui nous tient particulièrement à cœur, le mal-être français. Alors, nous allons suivre la structure d'un ouvrage qui nous a beaucoup plu, un ouvrage intitulé « La fabrique de la défiance et comment s'en sortir ». C'est un ouvrage tout récent qui a été publié début 2012, co-rédigé par trois scientifiques français, trois économistes, Yann Algan, Pierre Cahuc et André Zilberberg. Alors dans ce podcast, vous allez voir que les trois principales parties que nous allons développer sont un état des lieux des spécificités psychologiques françaises, ce mal-être, qu'est-ce qui se passe dans nos têtes, qu'est-ce qui se passe dans nos cœurs. En deuxième partie, nous allons essayer d'identifier les causes principales de ce mal-être-là. Et pour terminer, nous essaierons d'identifier des pistes de solutions qui pourraient solutionner tout ou partie de ce problème.
Et donc avant de rentrer dans le vif du sujet, on voudrait vous lire des extraits de l'introduction donc de cet ouvrage, en espérant peut-être que vous allez trouver des points communs par rapport à votre propre vie, votre propre passé, et sinon, autrement, juste voir les parallèles qui peuvent exister avec beaucoup de citoyens en France qui, aujourd'hui, vivent dans ce mal-être constant. Donc, pour vous lire quelques extraits, l'ouvrage commence comme ça. C'est l'histoire d'un petit Français. Très jeune, il découvre une école bien particulière. Pendant que ses camarades apprennent, dans les pays voisins, à développer des projets collectifs, il consacre l'essentiel de son temps, assis en rang, à écouter un enseignant qui professe son savoir et à recopier des notes inscrites sur un tableau. Son enseignant est plein de bonne volonté, mais il semble tout autant désorienté que lui. Contrairement à ses collègues européens, il n'a reçu aucune formation pédagogique approfondie. Très vite, notre petit Français est confronté au rite initiatique du classement, où les mauvaises notes et le redoublement séparent le bon grain de l'ivraie. Sans surprise, il devient l'élève le plus angoissé. Mais tout cela n'est rien à côté de ce qu'il attend. Notre petit Français est devenu adulte et fin prêt à se lancer dans le grand bain de la vie active. Il commence à acheter ses premières boîtes d'antidépresseurs, bien sûr. Le stress ne le quitte plus. Il faut d'abord décrocher un emploi à durée indéterminée pour pouvoir louer un logement correct et obtenir des crédits sans l'aide de ses parents. En cherchant à obtenir ce sésame, il s'aperçoit que les relations entre la direction et les salariés ont simplement remplacé celles du maître à l'élève. Il découvre une entreprise où les relations entre employés et managers sont les plus conflictuelles des pays développés. Donc l'introduction continue, on va vous épargner quelques détails. Mais après tout, il n'y a pas que le travail dans la vie. Malheureusement, les dirigeants politiques lui semblent en tout point identiques aux chefs d'entreprise. Nul hasard à cela. Ils ont tous fréquenté les mêmes grandes écoles et se retrouvent maintenant dans les conseils d'administration des plus grandes entreprises, dans les cabinets ministériels ou sur les bancs de l'Assemblée nationale et du Sénat. Le Français, il constate désabusé que tous ces grands personnages se cooptent et confondent même parfois leur bien personnel avec le bien commun. Leur devise, hiérarchie, inégalité, défiance. Il a le sentiment de vivre dans une société où chacun joue pour soi. Il a perdu tout espoir en la capacité de son pays à forger un destin collectif. Cette histoire est loin d'être imaginaire. Elle est même emblématique. À la veille des élections présidentielles, le malaise français est bien réel. Il se manifeste par des états de stress, des dépressions, une consommation d'anxiolytiques et même des suicides beaucoup plus fréquents que dans la plupart des autres pays. Ce constat va à l'encontre de la tentation grandissante d'entonner le refrain « Tout va très bien, madame la marquise ». Les Français seraient des râleurs patentés, culturellement querelleurs, pour finalement se retrouver autour d'une table avec quelques bonnes bouteilles et festoyer. Ou, dans une version plus méprisante, la souffrance des Français ne serait qu'un problème, entre guillemets, psychologique, qui ne mériterait pas grand cas. Nous ferions simplement une erreur de jugement sur l'état réel de notre pays. N'avons pas nous un niveau de vie élevé, des inégalités de revenus parmi les plus faibles d'Europe, un modèle social que tout le monde nous envie, des infrastructures de grande qualité, une douceur de vivre inégale? La France ne manque effectivement pas d'atouts, mais ne nous trompons pas. Le mal-être des Français est réel et il grandit.
Le mal-être des Français. Alors pourquoi choisir ce sujet comme premier thème de ce podcast en français? Parce que plusieurs symptômes nous ont interpellés. Ces 5 ans de sarkozisme, la réélection possible d'un individu qui pourtant a détruit tout ce qui faisait l'essence et la qualité de notre société, la montée des mouvements antisectaires menés par la Miviludes, la montée des communautarismes, la montée du Front National, autant de symptômes qui révèlent peut-être un malaise bien plus profond dans la psyché des Français, ce que nous appelons le mal-être. Alors les auteurs donnent des exemples tangibles de ce mal-être-là et comparent la population française aux autres populations européennes et dans le monde. Et on voit qu'effectivement, nous sommes bien face à une réalité triste, mais une réalité malgré tout.
Alors, ce qu'il faut souligner aussi, c'est que dans cet ouvrage, ils ont pris énormément d'enquêtes, d'études scientifiques en comparant les populations notamment de différents pays européens. Et la France, à chaque fois, se retrouve presque en fin de liste en tout ce qui concerne niveau d'éducation, niveau de confiance. On va en parler plus en détail, mais en fait, c'est une étude vraiment des plus scientifiques qu'il existe, on trouve, par rapport à ce qui est l'étude sociologique de ce qui se passe aujourd'hui en France.
Alors, comme toutes les études, on se penche, on analyse des populations dans leur ensemble. Chaque individu, chaque Français est différent. Néanmoins, quand on se penche sur la population française dans son ensemble, on se rend compte qu'il y a certains traits psychologiques, certaines spécificités. Alors, le conseil n'est pas tout rose. Le but, ce n'est pas de stigmatiser la France, ce n'est pas de stigmatiser les Français. C'est plus d'abord d'avoir conscience que les Français sont tout d'abord victimes de ce système, victimes à travers de grandes souffrances. Et le raisonnement, c'est de se dire que pour soigner une maladie, il faut déjà avoir conscience de ses symptômes. Donc, nous allons essayer de nous pencher sur les symptômes et déjà comprendre la situation pour éventuellement pouvoir la solutionner, l'améliorer.
Et bien évidemment, on n'a pas toutes les réponses non plus. On invite d'ailleurs à tous ceux qui nous écoutent à partager votre point de vue, parce que c'est vrai que, bon, comme dans des maladies dites nouvelles, parfois, on n'a pas toutes les réponses. On connaît certains symptômes et on essaiera de les comprendre ensemble. Il y aura sûrement d'autres podcasts où on analysera chaque point un peu plus en détail. Bon, aujourd'hui, on parle de la France, mais bien évidemment, ce n'est pas qu'en France qu'il existe ce type de problème. On pourrait parler de beaucoup de similitudes avec des pays asiatiques, les États-Unis ou autres. Donc voilà, ce n'est pas une stigmatisation, comme l'a dit Pierre, c'est juste vraiment une tentative pour essayer de comprendre en fait ce qui se passe. Hein. Et parce que c'est quelque chose qui est vraiment, vraiment inquiétant. Et on trouve qu'on est dans une époque où si la population entière ne fait pas quelque chose, ça pourrait avoir des répercussions très, très graves pour l'avenir de vos enfants, de nos enfants, des générations suivantes, et même la nôtre.
Alors ce mal-être français, comment se manifeste-t-il? Comment se mesure-t-il? Plusieurs études internationales pointent dans les mêmes directions. Un premier exemple, en Europe de l'Ouest, la France se classe en tête des suicides et des tentatives de suicide. Premier facteur alarmant. Dans la même logique, la France se classe troisième au rang des consommateurs d'antidépresseurs dans les pays de l'Union européenne. Et pour couronner le tout, l'occurrence d'épisodes dépressifs touche un Français sur 5, 20% de la population. Donc il y a un véritable mal-être qui n'est pas seulement une supposition, mais qui est confirmé par ces études scientifiques. La satisfaction aussi, une étude mentionnée dans cet ouvrage, La fabrique de la défiance, page 35 exactement. Quand on demande aux Français d'évaluer la satisfaction qu'ils éprouvent par rapport à leur existence, eh bien les notes données sont les plus basses au sein de tous les pays sondés.
Alors, et un point qu'abordent les auteurs, justement, c'est que tous ces symptômes du mal-être, comme les a listés Pierre, ne sont qu'une conséquence de ce qui se passe. On va essayer de trouver les causes possibles. Mais en tout cas, ce qu'ils expliquent, c'est que même dans des études scientifiques, normalement, on pense que, par exemple, le bien-être est déterminé par les revenus que l'on reçoit, alors qu'en fait, ça fait quelques décennies déjà que l'on a retrouvé que le bien-être en général est déterminé par la confiance, par les liens sociaux. Alors, est-ce que si vous, aujourd'hui, vous posez la question, quel est l'état des liens sociaux en France? Quel est votre aperçu par rapport à votre entourage social? Est-ce qu'on est tout seul en France ou est-ce qu'on est ensemble?
Oui, ça c'est un point qui est très important. Les études montrent, une étude de Daniel Kahneman entre autres, montre qu'au-delà de 3 500 euros de revenus mensuels, les gains en salaire n'ont plus d'impact sur le niveau de satisfaction de l'individu. Les études montrent aussi que le gain d'un facteur 1 au niveau de la confiance du lien social a autant d'impact qu'un gain de facteur 30 en termes de revenus. Donc, ce qui est vraiment déterminant, c'est ce lien social, cette confiance. Donc, s'il y a ce malaise en France, vu ce lien scientifiquement prouvé, clairement, il y a un déficit de confiance, il y a un déficit de lien social en France.
Ensuite, on va vous épargner quelques citations, mais on vous recommande vivement cet ouvrage, notamment au niveau des études qui ont été faites. Mais bon, en gros, en fait, ce qu'on voudrait explorer, c'est pourquoi ce lien social a été détruit et pourquoi il est tellement faible, en tout cas, il est très très faible en France par rapport à d'autres pays. Quelle est la cause et qu'est-ce qu'on peut faire? Parce que si on se sent tout seul dans le monde, si on est chacun pour soi, c'est un peu la mentalité d'aujourd'hui, comment on va s'en sortir? Quand vous, comme on le racontait dans l'introduction, quand depuis le plus jeune âge, on est habitué à être considéré comme pas bon, pas assez bon en tout cas, d'où on sort cette force pour faire face à la vie, pour choisir vraiment ce qu'on veut? Est-ce que vous sentez que vous avez vraiment le choix dans votre vie, dans la carrière que vous avez suivie, les études, le travail que vous faites en ce moment? Et même pour vos enfants, en fait. Est-ce qu'ils ont vraiment le choix?
Alors, un paradoxe concernant la genèse de cette défiance en France, c'est les inégalités. Alors d'abord, contrairement à une idée reçue, en France, il y a globalement moins d'inégalités que dans les autres pays. On parle là d'inégalités de revenus. La France est relativement égalitaire en termes de répartition de richesses. Donc, il y a des décalages, mais moins que dans les autres pays. Donc le problème en France, ce n'est pas vraiment les inégalités en tant que telles, ça va être la manière dont elles sont perçues et la relation à l'autre. On revient encore au lien social et à ce que les auteurs appellent le comparatisme social. Plus qu'ailleurs, en France, il ne suffit pas d'être riche ou il ne suffit pas d'être heureux, encore faut-il que les autres le soient moins. Et ça, c'est l'élément déterminant. Comme si les Français, suite au conditionnement ou à l'éducation qu'ils ont reçue, avaient fait le deuil de vivre par rapport à eux-mêmes, par rapport aux mêmes critères, aux mêmes objectifs, et qu'un substitut à cette quête personnelle et authentique, ils étaient dans cette course, dans cette compétition par rapport à l'autre. Les études montrent, mentionnées dans cet ouvrage, que finalement, un des déterminants les plus importants du bonheur de l'individu, ça va être le niveau de richesse de son voisin. Et quelque chose qui va saper le plus le moral de l'individu, ça va être que le voisin augmente ses revenus.
Et c'est vrai, ça peut sembler un peu exagéré, mais si vous regardez autour de vous, est-ce que ce n'est pas le constat que vous feriez par rapport au regard des autres, par rapport à comment vous regardez les autres, que ce soit au niveau des revenus, au niveau de leur style de vie, de leur bonheur même? Est-ce qu'en France, on partage vraiment le bonheur des autres?
Alors cette défiance, elle peut se manifester à différents niveaux. On la constate en France par rapport aux riches, la croyance étant, à tort ou à raison, qu'on ne peut pas devenir riche en étant honnête. Donc défiance par rapport aux élites, défiance par rapport aux institutions, on le voit au niveau, entre autres, des statistiques sur la fraude fiscale, défiance par rapport à tout ce qui est au-dessus dans la hiérarchie. Alors ça peut être justifié, la conclusion elle peut être bonne, mais pas forcément pour les bonnes raisons. La bonne raison, ça serait une analyse objective du niveau de corruption au sein de ces élites-là qui amènerait à la conclusion, bon, je me désolidarise de ces individus-là, de ces organismes-là, et je ne leur accorde pas ma confiance. En France, la cause ne semble pas être celle-là. En France, ça serait plutôt une défiance systématique, finalement, une peur de l'autre, une jalousie de l'autre, une haine de l'autre, qui mène à conclure par rapport aux élites, aux institutions, même chose qu'on conclut par rapport aux voisins, par rapport aux proches, par rapport à l'autre. Par rapport aux voisins de classe qui symbolisent l'autre et qui est institué dès les premières années au sein du système éducatif comme le concurrent, comme finalement celui à battre pour réussir.
Et ça, c'est une différence par rapport à d'autres pays, parce que bon, on pourrait dire que tous, que c'est quelque chose d'humain de penser toujours à ce qu'on n'a pas, à ce qui nous manque plutôt qu'à ce qu'on a. Mais en France, on dirait qu'il y a cette concurrence qui a grandi le problème, en fait. De Gaulle disait, par exemple, en 1970, les rapports sociaux restent empreints de méfiance et d'aigreur. Chacun ressent ce qui lui manque plutôt ce qu'il a. Alors, oui, nous ressentons tous ce qui nous manque plutôt ce qu'on a, à moins qu'on apprenne à avoir une autre philosophie de vie, peut-être, et à profiter des détails, à aimer la vie telle qu'elle est, accepter certaines choses. Mais en France, il y a cette dimension encore plus ancrée chez les gens où on compare tout ce qu'on a à ce que les autres ont, ou tout ce qu'on n'a pas par rapport aux autres. Et c'est un constat assez triste, en quelque sorte, parce qu'on ne peut pas mesurer vraiment, on ne peut jamais être vraiment satisfait de qui on est, de ce qu'on a, si on utilise des paramètres, notamment quand les paramètres sont complètement arbitraires et dictés par un système éducatif qui nous détruit le moral. Donc on n'est jamais objectif par rapport à ce qui nous manque, par rapport à ce que les autres ont. En France, bon, les auteurs, ils parlent beaucoup du système éducatif. On a une éducation qui est plutôt verticale, c'est-à-dire que il y a cette hiérarchie, comme on le montrait dans l'introduction, où on va essayer de faire des clones, en fait. À chaque fois, c'est un système de clonage, finalement.
Oui, alors on va revenir sur cette idée parce que c'est essentiel, le système éducatif. Donc les auteurs, à la fin de leur première partie, cet état des lieux, identifient cette défiance, cette peur de l'autre comme le mal central qui affecte la psyché française. On peut identifier de nombreux autres traits culturels, traits psychologiques, qui, de notre point de vue, sont jamais qu'une conséquence de ce mal-être-là. On a noté, certains ont noté, l'arrogance des Français. On a là sous les yeux une étude menée auprès de 1000 ou 2000 sondés sur les tours sur de tour, des touristes en fait voilà. Un classement des touristes en fonction de la nationalité et les Français, la France est considérée comme le pays le plus désagréable envers les touristes, pays le plus arrogant. C'est un des traits qui découle de cette défiance, la suspicion, la délation. L'importance des apparences et du statut social, par opposition à ce qu'est la vérité, au fond, hein, au-delà des apparences, la peur de l'autre, voire la haine de l'autre, la jalousie qui est reliée à cette incapacité à vivre par rapport à soi-même et finalement vivre en permanence dans le comparatisme social. Tous ces éléments-là découlent de cette défiance, de ce mal-être qui est instillé chez les Français dès leur plus jeune âge. Alors les causes, elles sont principales, elles sont certainement multiples. On va vous parler exhaustivement du système éducatif. Les auteurs soulignent un autre facteur qui nous semble plus secondaire, c'est le facteur historique. Un facteur historique, l'idée est la suivante, une hypothèse, ça serait que les pays qui ont connu de nombreux conflits, et la France en fait partie, hein, si on parle de la Révolution française, puis la Terreur, puis les guerres napoléoniennes, 1848, 1870, encore une défaite, Première Guerre mondiale. Une demi-victoire, on va dire, Deuxième Guerre mondiale, une victoire grâce à un intermédiaire de poids, grâce à un allié de poids. Tout ça, on pourrait croire que cette succession de traumatismes a façonné une psyché faite de peur et de défiance. Mais la réalité, elle n'est pas aussi simple et les auteurs montrent, à travers des exemples assez frappants, que ce qui est déterminant, finalement, ce n'est pas tellement les conflits à travers lesquels une population survivre, ça va être plus la manière dont les populations apprennent ces conflits. Donc un exemple, c'est, et finalement, pour caricaturer, il y a deux solutions quand une population fait face à un conflit. Soit la population explose, on tombe dans la défiance, dans la peur de l'autre, dans la délation, dans la collaboration, ou, solution positive, les difficultés vont resserrer les liens, on va se serrer les coudes, la solidarité, la fraternité, la coopération va être simulée et on va ressortir plus fort de ce conflit. Ça, c'est un exemple, celui de la Sierra Leone, qui est mentionné par les auteurs, où cette population sierra-léonaise, face à une terrible guerre civile, est finalement ressortie renforcée, avec plus de liens sociaux, plus d'organisation collective. Parce que face à l'oppresseur, face à la difficulté, ils se sont serrés les coudes, ils ont coopéré, ils ont résisté. Alors c'est certainement pas binaire ces dynamiques-là, on ne peut pas dire qu'il y a un conflit, une difficulté qui va façonner la totalité d'une culture, qu'elle soit française ou autre. C'est certainement une série d'événements qui va façonner petit à petit une psyché nationale. Et vice-versa, la psyché nationale va conditionner aussi en partie la manière dont la population va réagir, coopération versus individualisme, coopération versus collaboration versus résistance. Donc il va façonner la manière dont la population fera face au conflit et l'issue finale après ce conflit.
Oui, donc en fait, bon, il y a dans tous les pays ont vécu des traumatismes, donc d'accord, on va prendre ça comme un facteur possible, tout ce que la France a vécu au niveau des guerres et des conflits, mais on constate que c'est pas vraiment un déterminant clé forcément. À notre avis, c'est des traumatismes qu'on se transmet de génération en génération. Mais qu'est-ce qui se passe aujourd'hui pour que cela ne change pas?
Oui, alors concernant ces facteurs historiques, si on retient la thèse des auteurs, selon laquelle ce n'est pas vraiment la quantité ou l'intensité des conflits qui déterminent la psyché, la culture nationale, mais plutôt la manière dont la population fait face à ces conflits, on peut dire qu'il y a quand même au moins deux événements centraux qui ont conditionné dans le mauvais sens la psyché française. C'est d'une part la Révolution française qui a été une immense trahison, une immense désillusion pour la population française, qui a été suivie d'années particulièrement noires, la terreur, puis le règne de Napoléon Bonaparte. C'est beaucoup de morts, beaucoup de famines, beaucoup de violence au sein de la population française et de trahison.
De division.
Et de division. Donc de destruction du lien social qui est la fondation de la confiance et du bonheur. Donc première source de mal-être en termes d'événements historiques, la deuxième source c'est la Deuxième Guerre mondiale. Alors certes, pardon, le mythe, l'histoire officielle nous présente une France résistante qui dès les premières heures a pris le maquis, a combattu l'oppresseur nazi. La réalité elle est beaucoup moins rose que ça et la grande majorité des Français n'étaient pas résistants. C'est une toute petite minorité de Français qui, pour des raisons pas forcément aussi roses qu'on veut nous le dire, puisqu'il y avait beaucoup de repris de justice, beaucoup d'individus qui n'avaient rien à perdre finalement et qui n'avaient d'autre choix que de rejoindre la résistance, qui ont fait les rangs de la résistance française.
Alors qu'il existe des documents historiques prouvant qu'il y avait surtout beaucoup de collaborateurs aussi en France. Et de ça, on n'en parle pas tellement parce que bon, c'est sûr que c'est très difficile de voir, de regarder en arrière et d'admettre ça en tant que population, hein, en tant qu'individu. Mais c'est une réalité qu'il faudrait peut-être regarder en face et voir bon, qu'est-ce qui a motivé ça. On va parler peut-être des causes psychologiques vers la conclusion, mais c'est vrai que bon, il faudrait se poser la question, qu'est-ce qui a amené les Français à l'époque à faire partie de la collaboration? Certains Français, pas tous bien sûr. De la même façon qu'aujourd'hui, on trouve cette méfiance, cette division, par exemple, dans la chasse aux sectes et tout ce que fait la Miviludes. Aujourd'hui, vous pouvez, un couple qui se sépare, votre conjoint ne veut plus être avec vous, vous avez le droit d'aller l'accuser devant un organisme ministériel, tout à fait comme on faisait avant, comme dans la Seconde Guerre mondiale, finalement, ça n'a pas changé, la stratégie est la même, c'est diviser pour mieux régner. Vous pouvez accuser quelqu'un qui va se faire poursuivre par la police ou qui va être accusé d'appartenir à une secte seulement parce qu'elle est, elle ou il est en désaccord avec vous.
Ouais, et ce point-là, tendance à la délation, cette chasse anti-secte, si on l'étudie un peu plus profondément, on se rend compte que c'est basé sur un très fort conformisme. Cette chasse aux sectes, c'est finalement la chasse aux acupuncteurs, la chasse aux médecines alternatives, la chasse au yoga, l'agriculture bio, finalement la chasse à tout ce qui ne correspond pas à la pensée dominante. Et on se rend compte qu'en France, plus qu'ailleurs, la notion de normes et de conformisme est extrêmement présente. Alors ça peut être dû au fait que le comparatisme social est tellement important, finalement la quête essentielle n'étant plus la vérité ou l'accomplissement personnel, mais l'existence, le statut au sein d'une société très hiérarchisée, de fait, la norme devient le repère par rapport auquel on va évaluer l'individu, la norme sociale.
Oui, c'est un peu un paradoxe parce qu'en fait, bon, souvent la croyance est que on est très individualiste en France, que c'est un peu chacun pour soi. Et même si cet aspect est vrai, vous avez de l'autre côté une illusion par rapport à ça, parce que finalement, dès que vous vous conformez pas aux normes, on va vous accuser d'être bizarre, de ne pas respecter les lois, de ne pas croire à certaines données qui sont soi-disant prouvé et incontestable. En fait, c'est faux. Ce qu'il faut se dire, c'est qu'en fait, on nous vend cette idée de vous avez le droit de voter, de choisir, vous avez des choix, mais finalement, vous le voyez autour de vous. Si vous n'envoyez pas votre enfant à la maternelle, on va vous dire que vous êtes étrange. Si vous quittez votre conjoint parce qu'il y a de gros problèmes, on va vous dire sûrement que vous avez été manipulé par une secte.
Oui, et la norme sociale est très puissante, ça peut être plus puissant que les lois. À l'époque, des archives de Gestapo montraient que dans certaines villes de 10-15 000 habitants, vous aviez finalement 10 agents de la Gestapo. Et pourtant, la terreur régnait. Pourquoi la terreur régnait? Parce que vous aviez l'ensemble de la société qui adhérait, pour tout ou partie, à ce mode de gestion de la commune, à ce mode de gestion despotique de la commune. Et c'est un peu pareil en France aujourd'hui, vous avez des normes sociales qui sont tellement puissantes, le regard du voisin, le regard du père, et son jugement, et sa capacité aussi à dénoncer, qui ont pris tellement d'importance que les lois ne sont même plus nécessaires, et que de nombreuses activités qui sont légales, qui sont acceptées par la loi, sont devenues socialement inacceptables. Le bio n'a rien d'illégal. Élever ses enfants et leur donner finalement l'enseignement à la maison n'a rien d'illégal. Ne pas mettre ses enfants à la maternelle n'a rien d'illégal. Et pourtant, c'est quasiment infaisable socialement. Alors pourquoi cette norme est si importante en France? Ma petite théorie personnelle, c'est que les Français sont tellement traumatisés, tellement névrosés, tellement dans le doute et la dépression, qu'un individu qui vit différemment de la norme sociale française, donc différemment de lui, c'est une menace dont le message implicite est « Regarde, moi je vis différemment et je suis heureux. » Donc finalement, c'est une menace par rapport à toute l'illusion sur laquelle le français lambda base son illusion de bonheur, qui n'est pas une réalité comme le montrent les études.
Tout à fait, oui, il y a une partie de cette illusion de bonheur aussi. C'est un trait qui est très, très courant en France, c'est cette différence, cette importance que l'on donne aux apparences, au côté esthétique. La France est connue pour la mode, le parfum, etc. Enfin, c'est l'art. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup, beaucoup d'atouts, beaucoup de choses qui démontrent une grande créativité, par exemple, en France. Mais on dirait que chez la population, les apparences comptent beaucoup plus que ce qui est vrai, finalement. Même quand la vérité fait mal, on se concentre surtout sur les apparences. Et quand vous avez une société dans laquelle vous ne pouvez pas faire confiance à votre voisin, vous n'avez pas de vrais amis, en général, on généralise un peu, hein, mais... Bon, les apparences, c'est la seule chose qui vous reste pour garder cette façade, pour pas qu'elle s'écroule et qu'on voit que finalement, vous n'êtes pas qui vous dites être ou
Oui, c'est ça, c'est comme la phrase dit, on n'est pas heureux, mais on en a l'air. Et il semblerait que les Français, de par, on va développer ça dans quelques minutes, de par ce système éducatif castrateur, a vu disparaître, chaque Français a vu disparaître en lui sa propre foi, sa propre quête, ses propres idéaux, puisqu'ils ont été niés année après année pendant son enfance, et donc étant déconnecté de sa propre quête, de ses propres objectifs, il a fait le deuil de vivre par rapport à lui-même, à qui il est vraiment, qui veut être vraiment, et en substitut de être heureux, de être moi-même, il a choisi le paraître aux yeux de l'autre, socialement, ce fameux comparatisme social. Et aujourd'hui, on voit dans la société française une quête effrénée, non pas à découvrir qui on est vraiment, à être qui on est vraiment, à se rapprocher de la vérité, à être dans le fond, mais une quête au contraire du paraître, des apparences, du statut social, de la reconnaissance de l'autre. À défaut d'être heureux et par rapport à soi-même, à ses propres critères, on est quelqu'un qui a réussi dans les yeux de l'autre. Un piètre substitut, de mon point de vue.
Oui, et puis bon, on pourrait peut-être le relier. Bon, Pierre, toi, tu as suivi vraiment tout ton cursus scolaire jusqu'aux grandes écoles en France. Ce n'est pas mon cas, donc toi, peut-être tu pourras nous en dire plus par rapport au système éducatif et pourquoi ça a tellement d'incidence, selon ces auteurs-là, dans ce qui se passe aujourd'hui.
Bon, c'est un vaste sujet, ça va être une grande partie de cette émission. Le système français, il est effectivement très spécifique, même si on peut trouver des similitudes dans certains pays comme le Japon. Que dire, par où commencer ? Ben, on peut commencer par le début. Déjà, c'est un système qui commence le conditionnement, entre guillemets, très tôt. La maternelle, c'est à 2 ou 3 ans, alors qu'on a une très forte plasticité cérébrale, hein, comme de nombreux psychologues le disent, entre 0 et 5 ans, vous avez 95% de la psyché qui se forme, donc ce sont les années cruciales, et au lieu d'être en contact avec sa mère, chérie, dorlotée, nourrie, aimée, l'enfant français, il est d'abord en crèche, puis en maternelle, dans un système qui est déjà un système de transmission du savoir plus que de développement de l'individu.
Oui, c'est vraiment ce qu'on néglige, surtout en France, c'est l'importance de l'empathie, du développement de l'empathie lorsqu'on est jeune, de la cohésion sociale, le lien mère-enfant, père-enfant. Et si on perd ça dans les premières années de vie, on aura sûrement des conséquences graves après. Et il y a beaucoup de pays européens, par exemple, où on tient compte de ces facteurs-là, notamment la Finlande. Alors qu'en France, on dirait que c'est vraiment structuré depuis le tout petit, depuis le plus jeune âge, et que après on entraîne des conséquences pendant très très longtemps. Vous avez dans l'école primaire, donc déjà toute la hiérarchie qui commence à se former, cette éducation qu'ils appellent les auteurs verticales, c'est-à-dire où c'est le maître qui parle, les élèves qui prennent des notes. Il y a eu une enquête dans laquelle la plupart des élèves se sentent ne pas être compris par leurs enseignants en France. C'est le plus haut pourcentage de toute l'Europe. On n'a pas le droit de parler, on n'est jamais assez bon, déjà dans l'école primaire, déjà.
Oui, alors on parlait d'un maternel, on parle du primaire. On peut dire que tout au long du cursus académique de l'enfant français, du jeune français, on va avoir certaines valeurs, entre guillemets, récurrentes. D'abord, ça va être le classement, la compétition, l'individualisme. On n'est pas dans des logiques de coopération, de travail collectif, d'échange. On est dans des logiques de classement et de compétition. Vous rencontrez que ce n'est pas la meilleure manière de stimuler le lien social et la confiance en l'autre que de présenter dès le plus jeune âge comme le concurrent, comme finalement l'obstacle entre vous et ce qui permettra que vous soyez aimé par vos parents, ce qui est le plus grand objectif, c'est-à-dire le succès académique.
Oui, donc ça, c'est le premier facteur. On voit en premier lieu donc cette éducation verticale, pardon, le maître qui est roi finalement dans l'éducation, dans la salle de classe. À l'opposé, on trouve l'éducation horizontale qui existe et qui marche très très bien d'ailleurs dans les pays européens. Dans laquelle, par exemple, les étudiants travaillent beaucoup plus en groupe, ils ont beaucoup plus à dire, ils sont testés sans surprise, c'est-à-dire que le professeur peut donner la liste des questions que les élèves vont recevoir lors de l'examen. en discuter, bien se préparer, et ensuite on les encourage justement par rapport au savoir. Et il y a beaucoup de facteurs qui sont pris en compte, comme tout ce qui est coopération entre camarades, intelligence émotionnelle, etc. Alors on voit en France par exemple, il y a 2 élèves sur 3 qui disent ne jamais travailler en groupe.
Voilà, c'est un premier facteur, oui, c'est cette approche très individualiste et passive. L'élève français, il est seul, assis, face à son bureau, il écoute et il prend des notes, donc c'est une posture très passive, très écrite, aussi très intellectuelle, c'est un autre facteur. Clairement, en France, au lieu d'avoir cette approche holistique où finalement on s'occupe et on développe tous les aspects qui font l'individu, qu'ils soient intellectuels ou émotionnels, en France, vous avez une véritable prédominance des mathématiques. Le français écrit dans un premier temps au primaire, un peu au collège, mais tout au long du cursus et de plus en plus, ça va être les mathématiques. Alors les mathématiques ont tout plein de qualités, certes, mais c'est pas tout ce qui fait l'individu, c'est très intellectuel, ça néglige de nombreux aspects importants comme la créativité, comme le travail en groupe, comme les émotions, comme l'empathie, comme la sensibilité, comme les capacités d'adaptation.
Et si on était tous pareils, la société ne marcherait pas. Il faut des gens qui ont des talents différents, il faut les développer. Quand vous vous centrez trop sur une matière comme les mathématiques, bon, mais là, vous stigmatisez énormément d'élèves qui auraient beaucoup, beaucoup de talents, mais qui, dans le système où ils sont, ces talents-là, ils ne sont pas vraiment appréciés. Un enfant qui dessine très bien, bon, il n'a pas les mêmes félicitations de la part d'un prof que celui qui réussit en maths.
Alors, tout à fait, et en fait, c'est encore pire que ça. On se rend compte que de plus en plus, pour accéder à certains cursus, à certaines formations, qui ne sont pas des formations mathématiques, ce qui est examiné en premier, ça va être les résultats du postulant dans les domaines scientifiques et mathématiques en particulier. Aujourd'hui, un exemple, c'est pour faire une école de commerce ou pour accéder à certaines écoles reconnues non scientifiques, on vous recommande de faire un bac S scientifique, même pour des formations de bon niveau littéraire ou dans des domaines non scientifiques. Ça, c'est un premier aspect. Un autre point important, ça va être ce qu'on appelle le renforcement négatif. Negative reinforcement en anglais. Le renforcement négatif, alors. Moi, pour avoir étudié en France et j'ai étudié aussi à l'étranger, j'ai fait un cursus en Australie, j'ai été choqué, positivement choqué, par les différences de niveau dans les notes. En France, en prépa, par exemple, à l'école préparatoire, vous avez quand même la crème des étudiants, hein, normalement, c'est déjà le fruit d'une longue sélection et de beaucoup d'années de travail acharné, de bons résultats par rapport aux autres. Hein. On revient au classement comparatif, au comparatisme social, le début du comparatisme social. En France, en prépa, la note moyenne, je dirais que c'est de l'ordre de 7 ou 8 sur 20. Donc la crème des étudiants français a 7 ou 8 sur 20 de moyenne. En Australie, en formation type master, vous avez la note moyenne qui tourne aux alentours de 70-80%, 14 ou 16 sur 20. Au final, c'est la même chose. Vous avez,
c'est arbitraire, de toute façon.
C'est absolument arbitraire. Alors, quitte à être arbitraire, autant encourager l'élève, autant renforcer la confiance qu'il a en lui, autant manier la carotte que le bâton, que la réprimande systématique, que le rabaissement, que le répéter le « tu seras jamais assez bon », qui crée un niveau de frustration très élevé, comme on le voit dans cet ouvrage, les statistiques montrent l'immense frustration des élèves français. Et ce livre montre aussi, à travers différentes statistiques, que le renforcement positif, ça marche. Et on le voit avec la plupart des enfants, alors après il faut trouver un équilibre, certainement. Mais le renforcement positif, c'est le moyen qui fonctionne le mieux, hein, en comparaison au renforcement négatif, pour que l'enfant soit heureux, qu'il apprenne, qu'il travaille, qu'il ait des résultats, et le plus important, qu'il se construise.
Oui, et ce n'est pas seulement, là on parle pas seulement des conséquences psychologiques que ça peut avoir, mais au niveau des innovations, au niveau du développement d'un pays aussi. Quand vous avez une population qui est anéantie, où chaque individu se considère comme n'étant pas bon, n'étant pas assez bon, qu'est-ce qu'on va construire vraiment? Il faut laisser cette créativité. Et là, par exemple, on peut vous donner des exemples d'autres pays considérés comme étant du tiers-monde même, où l'éducation est comme ça. Mon niveau de... Moi, je n'ai pas suivi l'école en France, mais je l'ai suivi en Argentine. Donc, vous allez croire, bon, mais sûrement le niveau d'études n'est pas le même. Bah, contrairement à ce que je pensais, j'étais à l'avance par rapport à des Français à l'université française en toutes sortes de matières. Hein. Et ce n'est pas... Bon, c'est triste à dire, mais enfin, quand on a cette croyance qu'en France, l'éducation est excellente et tout ça, bon, il faut se poser la question sur quelle matière. Peut-être en mathématiques, les Français sont plus avancés que les Américains, par exemple. Mais à quel prix? À quel prix on a sacrifié beaucoup d'autres carrières qui font partie essentielle du développement d'un pays, de la créativité, des innovations, de la cohésion sociale, de tout ce qui peut le faire avancer.
Oui, absolument, ça c'est une croyance. Mais on va y revenir aux croyances qu'ont les Français et le reste du monde sur la France et les Français. On va y revenir et c'est vrai que la France est considérée comme un pays exemplaire, entre autres au niveau de l'éducation. Et les chiffres prouvent que mais la réalité, elle est encore une fois bien moins rose que les croyances. Les petits Français font relativement bien dans tout ce qui est épreuve écrite, mémorisation, mais finalement ce à quoi ils ont été conditionnés pendant des années. Mais dès qu'il s'agit d'expression orale, de travail de groupe, de résolution de problèmes, de capacité d'adaptation, ou autres exercices qui vont nécessiter des talents sociaux, des talents émotionnels, là les Français sont meilleurs, voire bien meilleurs que la moyenne des autres pays. Alors, un autre aspect spécifique du système éducatif français, c'est l'omniprésence de la compétition et de hiérarchie. On en a un peu parlé, on va en parler un peu plus maintenant. Compétition et hiérarchie, ça commence les notes et donc les classements, ça commence très tôt en France. C'est, je dirais, de mémoire, c'est à partir du CP, 5-6 ans. À 5-6 ans, on commence à avoir des notes. Ça veut dire qu'on a des devoirs à faire. On a des interrogations et on aura 10 sur 10, 9 sur 10, 8 sur 10 et les classements commencent à être faits. Et plus ça va aller, plus les classements vont être fréquents, plus ils vont être sélectifs. Un point qu'on peut souligner, c'est qui est un peu à la croisée des chemins entre cette hypersélection et le renforcement négatif dont on parlait précédemment, c'est le taux de redoublement. La fabrique de la défiance mentionne les taux de redoublement, c'est de l'ordre de 40% en France, pour les étudiants français en général. La moyenne de l'OCDE, c'est moins de 20%. Et les études prouvent que le redoublement, ça n'améliore pas la performance scolaire.
Surtout pas, et au niveau psychologique, c'est horrible pour les jeunes enfants qui se retrouvent à redoubler, exclus, critiqués, pointés du doigt.
Bien sûr.
C'est vraiment. Pas la bonne façon, à mon avis,
C'est
d'encourager
destructeur.
ces élèves, hein.
C'est destructeur, ça ne fait qu'empirer la situation, que rajouter de la souffrance à la souffrance, de la frustration à la frustration, de la névrose à la névrose et de la démotivation à la démotivation. Alors, cette hypersélection, cette hiérarchie, elles vont aller en empirant au fil des années. Si l'élève résiste et s'il passe à l'année supérieure, comme souligné, et au final, vous vous rendez compte que toutes les formations, vous avez tous les collèges, tous les établissements, toutes les classes sont d'une manière ou d'une autre classées. Ça veut dire que vous, en tant qu'individu, vous êtes classé au sein de votre classe. Vous savez vos notes moyennes par rapport aux autres. Vous savez si vous êtes cinquième, deuxième, dixième, dernier, peu importe. Non, ça n'importe pas peu, mais peu importe l'exemple. Donc vous êtes classé au sein de votre classe. Votre classe, au sein du collège et du lycée, vous vous souvenez des fameuses classes où la première langue c'est l'allemand, avec option latin et grec, comme ça on est dans la meilleure classe. Donc votre classe est classée au sein de votre établissement. Votre établissement, il est classé au sein de tous les établissements français. On a les classements des lycées, des collèges, qu'ils soient implicites ou explicites. Vous avez également les disciplines qui sont classées. Après le bac, vous allez avoir les disciplines scientifiques, ingénieurs, puis ça va être les écoles de commerce, puis la médecine, puis etc., etc. Chaque discipline est classée. Au sein de chaque discipline, les écoles sont classées. Vous avez un classement des 200 écoles d'ingénieurs en France, avec Polytechnique qui va être premier, deuxième ça va être Central Paris ou Mines, etc. etc. jusqu'à la deuxième.
Ensuite, vous avez les diplômes qui comptent selon d'où vous ressortez dans cette hiérarchie. C'est ce qui va déterminer votre emploi, votre vie professionnelle. Si vous n'avez pas de diplôme, même si vous avez beaucoup, beaucoup de compétences, vous aurez beaucoup plus de difficultés à trouver un emploi. Donc, on a la compétition, la prédominance des diplômes, enfin de l'importance des diplômes. Il y a aussi, il faut mentionner l'importance des origines sociales dans certaines écoles.
Oui, on va y venir au brassage social et à l'influence des origines sociales sur les résultats. Mais je voudrais rebondir sur un point qui est important et qui mérite un peu plus de développement, je crois. C'est l'importance des diplômes. Et ça, c'est un élément qui rajoute beaucoup à la pression que subissent les petits Français. En France, plus qu'ailleurs, le diplôme va définir qui vous serez. Votre statut social, votre niveau de revenu et peut-être encore plus important, la manière dont l'autre vous regarde. Et ce qui conditionne essentiellement la manière dont vous percevez, c'est un des symptômes des blessures narcissiques qu'ont connu et que connaissent encore les Français. Donc le diplôme en France, ça détermine, la statistique qui est mentionnée dans ce bouquin, c'est que vous avez 20% de managers en France qui sont arrivés à leur poste par promotion interne, vous avez dans les 50 à 60% des autres pays. Ça veut dire en France plus qu'ailleurs, c'est le diplôme qui définit qui vous êtes. Alors ça, c'est pourquoi ça rajoute de la pression, parce que ça veut dire que les parents, ils en ont bien conscience, et rapidement les enfants en ont conscience aussi, que si on réussit à l'école, on sera quelqu'un, si on ne réussit pas, on sera moins que rien, on n'existera pas socialement. Et c'est une réalité. Et donc ça veut dire que l'école, c'est un peu le couperet. Et le succès ou l'échec pendant ses premières années, ça va définir qui on sera pendant tout le reste de sa vie. Donc c'est quand même un enjeu qui est immense.
Oui, donc en gros, ce qu'on est en train de dire, c'est que c'est une vraie machine à trier depuis le plus jeune âge. Et on divise pour mieux régner, on dirait. Qui sont les responsables? Bon, on peut dire qu'en partie, c'est l'histoire. En partie, ce sont les dirigeants actuels. Mais on est divisé et... mieux régner finalement. Donc on a abordé plusieurs points par rapport à l'école, par rapport aux entreprises. Bien sûr, on pourrait s'attarder sur chaque point, hein, mais pour...
Un des points sur lequel on ne va pas s'attarder, mais qu'on peut développer un peu plus, parce qu'il lève un mythe de plus, il fait disparaître un mythe de plus, le mythe selon lequel, en France, plus qu'ailleurs, les origines sociales ne conditionne pas les succès académiques et la position sociale future de l'enfant. Alors ça, c'est faux. C'est totalement faux. Et en général, ce qui est invoqué dans ces clichés sur la société française, c'est que, vu que l'école est gratuite, entre guillemets, ce qui n'est pas totalement vrai, mais bon, vu que l'école est moins chère que dans certains pays, et qu'elle est ouverte à tous, et qu'elle est obligatoire, de fait, tout le monde a la même chance, ça c'est totalement faux. En fonction de son milieu social, on aura accès à un pool de connaissances, à des formations complémentaires, à du soutien, à des explications, à des conditions de travail, à des outils de travail, de révision, de préparation incomparables. Et ça fait la différence.
Oui, alors, je pense qu'on a fait plus ou moins le tour des causes possibles en gros, hein, de ce qui se passe aujourd'hui en France. C'est vrai que c'est un constat très très douloureux parce que bon, on dirait qu'il n'y a pas d'espoir a priori, mais en même temps, je pense que c'est important de le voir autrement, c'est-à-dire de comprendre un problème, c'est ce qui nous permet de le changer en premier abord. Même si le fait de le comprendre, c'est très dur et c'est peut-être quelque chose qui va à l'encontre de ce que les Français apprennent depuis un tout jeune âge. La vérité, elle compte plus que les apparences. Et c'est ce qu'on est en train d'explorer, c'est la vérité par rapport au mal-être français, à ce qui se passe. Donc ça serait le premier point. Alors, on est désolé de ne pas vous donner de bonnes nouvelles ou de parler de quelque chose de plus joyeux, mais on trouve que c'est un vrai, vrai problème. Donc ça, c'est la première chose, c'est d'en devenir conscient.
Oui, et à ce sujet, je pense que les Français qui souffrent de ce mal-être, les Français qui souffrent de dépression, qui prennent des anxiolytiques, qui ont fait des tentatives de suicide et qui sont plus nombreux que partout ailleurs dans le monde, je pense que leur souhait, c'est d'aller au-delà de ce mal-être. C'est de retrouver le bonheur, cette paix, ce bien-être, et surtout, disons surtout, ça va ensemble, et on touche à les causes principales de ce mal-être, et surtout être en paix avec l'autre, avec le regard de l'autre, enfin vivre des relations sociales harmonieuses,
Oui.
fondées sur la confiance. Je pense que les Français, consciemment ou pas, ils manquent cruellement de ce lien social, de cette relation de confiance à l'autre. Donc, pour atteindre cet objectif, qui est ambitieux et qui est désiré par beaucoup, je pense, au moins inconsciemment, on est obligé de faire un constat, de voir la réalité en face et de diagnostiquer la maladie d'abord.
Oui, alors les auteurs, ils proposent quelques solutions, notamment, bon, ils parlent des pays, d'autres pays qui ont réussi, on en a fait allusion plus tôt. Bon, bien sûr, on pourrait imaginer que l'idéal, ce serait qu'il y ait un rééquilibre au niveau de tout ce qui est travail individuel et collectif, au niveau des matières plutôt intellectuelles, on va dire. Des sciences exactes, pures, et tout ce qui est créativité, émotion, etc. Alors, bon.
C'est trouver un juste milieu en fait entre
Oui.
l'approche verticale et l'approche horizontale, prendre le meilleur des deux et in fine proposer un système éducatif qui permet à l'enfant de se construire au mieux.
Oui. Alors, bon, là, on part un peu dans un monde utopique par rapport à où en est la France aujourd'hui. Parce que malheureusement, les gens qui dominent le système éducatif, qui prennent les décisions, ne seraient surtout pas d'accord avec ce qu'on est en train de dire. Donc là, il faut. Bon, est-ce qu'on peut trouver une solution qui soit plus réaliste, on va dire? Sur le long terme, espérer que ces changements pourront aboutir. Mais maintenant, tout de suite, on ne pourra pas changer les institutions si facilement que ça.
Alors, pourquoi les décideurs qui peuvent concevoir les programmes éducatifs ne seraient pas d'accord avec ces changements? Un premier facteur, c'est qu'aujourd'hui, le système éducatif français, force est de constater, produit des clones qui mémorisent bien, qui régurgitent bien, qui sont soumis, obéissants, donc finalement des citoyens idéaux pour un dirigeant qui ne veut pas avoir à rendre trop de comptes à une population éveillée, créatrice, et une population qui se serrent les coudes. Parce que finalement, la plus grande menace de toute élite, surtout de toute élite illégitime, c'est une population qui ensemble agit pour son destin et
Oui. Et
pour
là,
ses intérêts.
on touche vraiment à la cause de ce malheur, en fait. Hein. C'est que vous avez des dirigeants dans tous les secteurs, dirigeants d'entreprise, dirigeants dans le gouvernement, dans le système éducatif, qui ne sont pas comme vous. Ça, c'est un sujet qu'on a abordé beaucoup, beaucoup de fois, qu'on aborde, c'est presque notre fil conducteur dans SOT.net et dans toutes nos recherches, et c'est l'existence de la psychopathie. Alors quand on dit psychopathie, on ne fait pas référence au tueur en série, mais plutôt à une personne qui peut être tout à fait charmante, intelligente, mais qui manque d'empathie. Justement, ce dont on parlait avant, l'importance de l'empathie, le fait de pouvoir se mettre à la place de l'autre quand on est tout petit. Bon, il y a des gens qui naissent, ça a été prouvé. Il y a beaucoup, beaucoup d'études, malheureusement, la plupart sont existantes en anglais. Ça, c'est l'autre des handicaps français, ce manque d'ouverture envers les études qui viennent d'ailleurs. Mais bon, pour revenir à la psychopathie, ça, selon notre constat, hein, c'est l'une des causes majeures, sinon pas la cause majeure de tout le malheur qui touche non seulement la France, mais à beaucoup d'autres pays. En France, vous avez donc ces dirigeants qui veulent cloner des élèves, par exemple l'exemple que donnait Pierre. Ça, c'est à la base la seule explication cohérente que l'on trouve si on creuse, c'est que tout au haut du sommet, on retrouve des gens qui n'ont pas le meilleur intérêt des citoyens en tête, qui veulent contrôler, qui veulent cloner des gens, et qui ne veulent surtout pas que vous ayez la parole, que vous ayez cette cohésion sociale.
Alors, on traitera certainement du thème de la psychopathie dans un podcast dédié sur le sujet. Rapidement, deux spécificités du psychopathe, c'est d'une part l'absence d'empathie. Et concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire prendre un certain plaisir dans la souffrance de l'autre. Hein. On est né à ces niveaux-là de vice hein, chez l'individu psychopathe. Prendre plaisir dans la souffrance de l'autre, et au final, quand vous voyez le bilan sur le niveau de mal-être de la population française, On ne peut que reconnaître que les psychopathes au sommet de la société française ont bien réussi leur mission. Et ont réussi à induire un niveau de souffrance dans la population qu'ils gèrent, un niveau de souffrance quasiment inégalé dans d'autres pays. Et l'autre spécificité du psychopathe, c'est cette peur primale d'être découvert, que sa véritable identité soit découverte. Et c'est vrai que la meilleure manière d'identifier les dérives psychopathes et ces profils-là, ça va être d'abord d'être équipé d'un appareil émotionnel fonctionnel et ensuite de travailler en réseau, d'échanger, de bénéficier de ce lien social, de se serrer les coudes. Ce sont les meilleures manières de lutter contre la psychopathie. Et aujourd'hui, la France, elle est aux antipodes de tout ça. On a des Français essentiellement neurotiques et qui totalement déconnectés de leurs véritables émotions et dans la peur permanente de l'autre, donc incapables de travailler en réseau, de se serrer les coudes et de faire quelque chose ensemble. Donc aujourd'hui en France, les psychopathes ont généré un état de souffrance très élevé dont ils se délectent certainement et ont détruit le lien social à un point qu'il est quasiment impossible qu'ils soient contrés ou qu'il y ait obstacle à leur projet néfaste.
Oui, on vit dans un état permanent de stress post-traumatique. Bon, si on le voit à une échelle un peu plus petite, dans une relation avec un psychopathe, une personne peut en mourir même, peut être tellement traumatisée, elle n'a plus le moral, elle peut tomber malade. Bon, regardons ça au niveau social, on a la même chose, on a des gens qui n'ont pas de morale, de confiance en soi, des maladies qui grimpent très très rapidement, on a beaucoup plus de dépression. Tout ça, ce sont des symptômes qu'on trouve à l'échelle de, par exemple, une relation amoureuse avec un psychopathe, ou un père ou une mère psychopathe et un enfant, ou une petite entreprise dans laquelle votre dirigeant, votre chef d'entreprise n'a pas d'empathie à tous les traits caractéristiques d'une psychopathie. Bon, là, on généralise un peu aussi, il y a beaucoup de catégories, de caractéropathies, ce qu'on appelle donc des différents troubles de la personnalité. Mais si on réfléchit à ça, donc à l'effet que ça a chez les Français, on peut voir qu'aussi l'un des jeux psychologiques des psychopathes et du système français aujourd'hui, comme dans beaucoup d'autres pays, c'est cette illusion qu'ils créent en nous. Comme quoi tout va bien, ou on fait avec, ou ça va plus ou moins, ou la France a tel et tel atout, etc. Et vous voyez que même le principe de base, comment on appelle ça, le leitmotiv de la France, c'est liberté, égalité, fraternité. Alors regardons chacun en détail et vous allez voir que c'est tout à fait le contraire. Mais l'illusion, elle reste.
Normes
L'illusion.
sociales, défiance, un pays hautement inégalitaire où le destin de l'enfant est conditionné essentiellement par le statut social du parent.
Oui.
Donc on est aux antipodes de ce qui est prétendu.
Oui, il y a de plus en plus de couples désunis, de divorces, de problèmes psychologiques.
Oui, alors à ce sujet, on revient sur un thème dont on a parlé précédemment, ce décalage qui est frappant en France, de mon point de vue, ces paradoxes entre les apparences, les croyances et la réalité. Là, on met peut-être le doigt sur une des conséquences de ce stress post-traumatique, de cette névrose induite par l'enfant qui va vivre et devoir survivre à un système éducatif psychopathique, le phénomène de surcompensation. Finalement, l'enfant, le français, la France entretiennent une illusion de grandeur, d'excellence culturelle, de beauté des paysages, de qualité de la mode,
D'être au centre
de
du monde.
goût, d'être leader en termes de culture, d'intellect. Et en parallèle, donc ça ce sont les apparences, et des apparences finalement auxquelles les Français croient, mais également auxquelles les non-français croient, donc c'est un consensus assez fort, mais en parallèle, quand vous creusez, quand vous grattez ce vernis derrière, vous voyez une société qui est relativement délabrée, de la défiance, de la peur, des tentatives de suicide, des dépressions, des consommations d'anxiolytiques, et finalement, un peu comme ces enfants qui doivent aux blessures narcissiques, ces apparences grandioses finalement, sont peut-être là simplement par surcompensation d'un intérieur
Très
très
fragile.
triste et très gris finalement.
Oui, puis bon, il faut se poser la question parce que c'est un cercle vicieux, vraiment. À chaque fois qu'on dit oui à quelque chose qui va contre nos valeurs, à chaque fois qu'on dit oui à quelque chose qui tue vraiment ce qui on est, notre essence, peu importe comment on l'appelle, à chaque fois qu'on fait ça, il détruit vraiment une partie de nous-mêmes. Et à chaque fois qu'on fait ça, on a besoin de faire encore plus de surcompensation, comme disait Pierre, pour garder cette image, pour garder presque pour continuer d'exister, parce que c'est trop difficile de voir la réalité en face. Et aujourd'hui, il faut faire face à ce qui se passe au niveau de la psychopathie au sein de la société. La France, elle en est touchée comme la plupart des pays. Mais le problème, c'est qu'en France, il manque beaucoup, beaucoup d'études pour exposer le fond de ce qui se passe au niveau de la psychopathie, des troubles tels que la psychopathie et les faits que ça a dans la société. On estime qu'il existe 6% de psychopathes, des gens nés psychopathes dans le monde, mais si vous comptez les faits que ça a chez les autres, tous les traumatismes, toutes les conséquences, étant donné qu'ils sont souvent placés très haut, que ce soit au niveau des sciences, en médecine, en politique ou autre, quand on voit les effets que ça a, il faut vraiment, vraiment se poser la question par rapport à ce qu'on va faire. Alors, peut-être que c'est ça la conclusion qu'il faut prendre, que c'est vraiment devenir conscient de ce problème et se poser des questions sur comment on va détruire petit à petit ces illusions qui nous ont été mises à l'esprit. Comment petit à petit, tel qu'une personne qui a été traumatisée par un événement très très difficile ou une personne qui lui a fait du mal, comment on va guérir les blessures qu'on a à l'intérieur, comment on va apprendre à qui faire confiance et à qui ne pas faire confiance, et puis en sorte trouver ensuite trouver la solution ensemble.
Oui, il y a certainement deux niveaux de conclusion, un niveau personnel où la prise de conscience du type d'enfance qu'on a eu, du système éducatif qu'on a été obligé de traverser, des traumatismes que cela a pu induire et des conséquences que ça peut avoir sur notre paysage émotionnel et psychologique d'aujourd'hui. Donc cette prise de conscience, cette analyse, ça peut être une manière de mieux nous comprendre, de mieux savoir d'où l'on vient et d'initier un changement. Et ensuite, au niveau collectif, effectivement, c'est prise de conscience cette fois-ci d'un système de conditionnement, de contrôle, qui permettant de conserver les individus dans l'ignorance et surtout détruisant le lien social qui est la première source de bonheur de l'individu et la meilleure arme pour lutter contre le système psychopathique. Donc la prise de conscience au niveau personnel et collectif de ces maux-là, de cette situation, de ces mécanismes, c'est certainement la première étape pour agir en connaissance de cause et pour agir dans la meilleure direction.
Oui, je pense qu'il faut faire vraiment la différence entre le fait que le français moyen était conditionné pour se méfier des autres, comme les auteurs le disent dans l'introduction, on respecte la hiérarchie, on se méfie surtout des pairs et on méprise ceux qui sont en bas de l'échelle. Tout ça, c'est le produit de la pensée psychopathique, du système que les psychopathes ont instauré. En fait, ce qu'il faudrait apprendre, c'est à mon avis, en tout cas, de se méfier des gens de qui vraiment il faut se méfier. Et non pas des pères, non pas des gens qui sont dans la même situation que nous, qui se sont isolés. Et ça, c'est vraiment ce qu'ils ont fait au fil des années. C'est qu'ils ont créé une société tellement divisée qu'on fait confiance à des autorités ou à des personnes qui ne méritent pas notre confiance, alors qu'on perd une grande opportunité d'avoir de vrais amis, de vrais alliés dans notre vie, parce qu'on a peur de tout le monde. Si on connaissait vraiment ce sujet-là, on pourrait faire la distinction. Ce n'est pas impossible de faire la distinction et de trouver des gens en qui vous pouvez, sur qui vous pouvez compter et de faire quelque chose ensemble. Alors on espère que dans les prochains podcasts, on pourra développer plus partager plus toutes ces recherches sur la psychopathie. Vous allez trouver des articles sur sot.net qui parlent du sujet. Et voilà.
Oui, nous vous remercions de votre patience et de votre intérêt. Nous arrivons au bout de cette émission. Nous avons essayé de respecter les délais. On s'était fixé une heure. Je pense qu'on est pas loin de l'heure, peut-être un peu au-delà. Donc merci de votre intérêt Et nous vous donnons rendez-vous à bientôt pour le deuxième podcast en français de SOT.net. Et d'ici là, passez du bon temps, réfléchissez à tout ça. Et
nous espérons que ça vous a aidé un peu à trouver quelques points peut-être auxquels vous n'aurez pas réfléchi. Et voilà, on attend votre avis alors.
Merci et au revoir.
Merci.
Some questions.